La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à chacun, chacune, en cette fin d'après-midi. Je me présente, je m'appelle Nicolas Mahalouf, je travaille à l'église baptiste Toulouse Métropole. Et je vous pose une question: comment connaître Dieu? Comment s'en approcher? Puis-je m'en approcher avec mes doutes et mes questions? C'est un peu une question que je vous pose et que je me pose en ce temps de bilan, de nouvelle année. Mais je voudrais commencer d'abord par quelques définitions qui sont quand même des fondamentaux pour bien qu'on se comprenne. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Eh bien, un chrétien, ce n'est pas tant un comportement, mais plutôt quelqu'un qui se revendique de Jésus-Christ, de ses enseignements, et qui compte sur son secours, le secours du Saint-Esprit, pour lui obéir et pour obéir à Dieu. Donc voilà, un chrétien, vraiment, ça veut dire petit Christ, hein, donc quelqu'un qui imite son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot Dieu? Ce n'est pas une puissance vague, Dieu n'est pas une puissance mystique. Non, selon les chrétiens, Dieu est le créateur de toutes choses, il n'a pas de commencement, il n'est pas créé. Il peut exercer ses jugements et donne sa miséricorde comme il le désire, et il demandera des comptes aux créatures que nous sommes. La Bible nous dépeint Dieu comme un être riche en compassion et en bonté, et le disciple Jean va écrire que Dieu est amour. Donc ça, c'est quelques éléments hein, sur Dieu, il y en aurait beaucoup, beaucoup d'autres à dire, hein, bien sûr. Mais voilà, Dieu est amour. Et il s'est concrètement manifesté à travers Jésus-Christ. Ça aussi, c'est important de le signaler, c'est le Dieu de la Bible est venu s'incarner, c'est ce que nous avons fêté. Si vous avez fêté Noël, c'est quelque part le premier Noël, ça vient de l'incarnation. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Voilà. Et le but de tout ça, il s'est manifesté afin de servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On le lit en Matthieu, au chapitre 20, verset 28. Voilà le plan de Dieu de toute éternité. Pourquoi il s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ? C'est pour se donner, servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc je voulais appuyer ces quelques définitions pour commencer. Parce que même si ce n'est pas la bonne théorie qui nous transforme, c'est bien le Saint-Esprit, c'est ce que le croyant espère, le secours du Saint-Esprit pour la transformation de son caractère, de sa vie. Bien, je crois quand même que Dieu utilise les langues, les mots, pour se manifester à nous de manière intelligible, de manière compréhensible, de manière rationnelle. Et une fois la théorie entendue, à nous maintenant de demander ce secours du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos prières, pour qu'il vienne nous transformer et qu'il nous donne une vie nouvelle, qu'il nous insuffle sa vie si nous ne sommes pas encore chrétiens. Mais on doit d'abord entendre ces vérités fondamentales sur la foi chrétienne, sur ces vérités bibliques, pour ensuite prier Dieu qui viendra dans son secours nous donner cette vie nouvelle. Alors, peu importe où nous en sommes dans la foi, je vous parle à vous, peu importe où vous en êtes, peut-être même si c'est une simple curiosité qui vous fait écouter cette radio, mais nous allons découvrir quels sont les premiers secours que Dieu veut nous apporter, que le Dieu de la Bible veut nous apporter. Les secours d'urgence. Quel est le principal secours qu'il vient apporter en venant s'incarner? Alors je vous lis dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 14. Marc, chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit: « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Que de rebondissements dans ce récit. Je voudrais accentuer particulièrement sur cette phrase de l'homme qui a son fils malade, hein, et l'homme, voici ce qu'il dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ça se trouve au verset 24. C'est comme un exemple frappant de ce qu'est une contradiction. « Je crois, viens au secours du fait que je ne crois pas. » C'est ce que ça veut dire. Mais je vous invite à réfléchir pour vous-même si vous n'avez pas déjà vécu un tel sentiment contradictoire à l'intérieur de vous. Un mélange entre une assurance qu'une chose allait pouvoir se passer, mais en même temps, une grande crainte que cette chose ne se passe pas. Je sais que ça va le faire, mais ce n'est pas encore fait, et au fond, si ça ne se faisait pas, ça serait dramatique. Je serais sans recours. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment nous allons gérer nos doutes. Parce qu'au fond, tout le monde a ses propres doutes et a ses propres craintes. Mais comment nous allons gérer nos doutes, c'est ce qui va nous intéresser. Et j'aime bien ce que dit le surfeur Hamilton. Assure-toi que ton plus grand ennemi ne réside pas entre tes propres oreilles. Je trouve que son conseil coïncide avec la prière de cet homme qui implorait Jésus en disant « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » L'homme ne mettait pas son manque de foi sur une cause extérieure. Il ne disait pas que son manque de foi provenait des mensonges qu'il avait entendus ou des distractions que le monde a pu lui offrir dans sa vie, même s'il y en avait probablement beaucoup. Il ne mettait pas non plus son manque de foi sur le compte du diable, même si, de toute évidence, il n'y est pas pour rien dans l'affaire. En fait, il voit que le problème est en lui. C'est de son incrédulité dont il est question. C'est son incrédulité que Jésus pointe du doigt. Et c'est son incrédulité que l'homme va confesser. Confesser, c'est simplement reconnaître la vérité devant Dieu. L'homme qui implore Jésus est honnête sur l'état de son propre cœur. Et de toute évidence, pour se dévoiler à Jésus avec une telle honnêteté, c'est là une preuve d'une grande foi. C'est là où c'est brillant d'humilité, à mon sens, c'est qu'il sait déjà que sans le secours de Jésus, il va certainement défaillir très rapidement. Et pire, il ne va jamais progresser dans sa propre foi sans le secours de Jésus. Il connaît sa fragilité, il connaît sa faible foi, et il demande à Jésus de venir secourir sa faible foi, de venir au secours de son incrédulité. La foi n'est pas seulement une décision d'une journée. C'est plutôt comme une marche de tous les jours. Dans la confiance en Dieu, c'est un marathon de confiance. C'est pour ça qu'on a besoin d'être secouru. Parce qu'il y a des jours où tout va aller bien, et d'autres jours où nos doutes, où les circonstances de notre vie, où nos émotions prennent le pas, prennent le dessus, et nous font penser tout un tas de choses fausses au sujet de Dieu et de sa fidélité envers nous. L'homme de notre récit découvre en fait une facette de Jésus très importante. Il découvre la grâce de Jésus. Dans cette partie du texte, Jésus veut rendre la vue spirituelle à des personnes dont le cœur s'est longtemps entêté et ne voulait pas croire. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel, un aveuglement nourri par l'ignorance, mais aussi par l'orgueil de la vie. Tant que j'ai le sentiment que ma vie va bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais ce qui change ici, c'est un sentiment d'impuissance qui règne dans notre récit. La foule est face à des puissances démoniaques et il n'y a aucune solution. Le père de l'enfant est face à ces mêmes puissances sans aucune solution, et ce, depuis la naissance de son fils. Alors il dira probablement que tout a basculé à la naissance de son fils, évidemment. Mais il a peut-être pu tenir la tête hors de l'eau toutes ces années, tant bien que mal. Peut-être a-t-il cherché des solutions, des sparadraps, des pseudo-solutions. Mais aucune d'elles ne fonctionnait réellement. Aucune d'elles n'a réellement guéri son fils en profondeur. Et il s'est finalement dit que la vie était ainsi faite, et il en arrive à un moment où il n'en peut plus. Il est rincé de tout son vécu, il est à bout, genoux à terre, son seul recours, c'est d'espérer croiser un des 12 disciples de ce maître qui a si bonne presse en Galilée. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il a enfin croisé un des disciples de Jésus. Il va même en parler. Il leur a demandé de chasser le mauvais esprit de son fils, au verset 18. Mais que s'est-il passé ensuite? Le père, après sa demande, n'a pas obtenu la guérison. On est encore loin d'une fin heureuse. Et d'un œil tout à fait humain, lorsque je lis ce passage, et à ce stade, je me dis qu'il n'y a rien qui va, en fait. Le père a tenté une approche avec les disciples de Jésus, et c'est un échec. Mais ce qui est un échec encore plus grand, c'est du point de vue des disciples de Jésus. Eux qui avaient vu leur maître opérer tant de miracles et de guérisons étaient eux-mêmes en échec. Mais quelle humiliation, quelle frustration. Peut-être ça vous est déjà arrivé d'appeler un médecin pour lui expliquer un problème que vous avez. Vous avez bien réfléchi à lui expliquer avec les bons termes le problème qui vous concernait, qui concernait votre santé, de la bonne manière pour bien vous faire comprendre. Et vous appelez, vous expliquez tout de manière claire et concise, mais vous vous rendez compte assez vite que ce n'est pas le médecin au bout du fil, mais son secrétaire. Et son secrétaire ne connaît pas le métier, et malgré toute sa bonne volonté, il ne peut rien faire pour vous. C'est frustrant. Et c'est un peu le cas du père qui a fait sa demande aux disciples. Les disciples n'avaient rien pu faire pour lui. Il lui fallait parler à l'expert en la matière, le médecin par excellence. Et voici le tournant magnifique de notre récit. La rencontre personnelle de l'homme avec Jésus. Il peut lui parler désormais directement, lui exposer sa cause de manière détaillée. Et voilà comment il conclut sa demande. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Au verset 22. Ce sur quoi Jésus lui répond « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » En fait, Jésus n'a aucun doute sur sa capacité à guérir. Mais il veut faire avancer le Père sur un terrain qu'il n'a jamais emprunté jusque-là. Le terrain d'une foi personnelle au Maître qui est en train de lui parler. Si le Père avait fait sa demande, confiant que Jésus est le Fils de Dieu, alors certainement qu'il aurait demandé à Jésus autrement, convaincu que Jésus a la capacité de guérir son Fils. De la même manière, si je demande du secours à un ami qui est chef étoilé, en lui apportant de quoi faire un gâteau rapidement pour me dépanner, je vais attendre un résultat bien plus extraordinaire que si j'avais donné le même travail à un ami mécanicien. L'homme s'adresse ici au Fils de Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'est jamais dépassé, c'est bien Jésus. Et en cette nouvelle année, la première chose importante à considérer, si vous souhaitez un nouveau départ avec Dieu, c'est de considérer qui est Dieu réellement. Même si Dieu veut se faire votre ami, il reste néanmoins, et premièrement, le Dieu Saint, créateur de toutes choses, infiniment grand, rempli de bonté et de miséricorde, prêt à vous pardonner, à vous faire grâce. Pour prier Dieu, pour s'adresser à Dieu, faut-il encore savoir qui il est? Est-ce que vous voyez Dieu tel qu'il est, ou est-ce que vous vous faites une image de Dieu? C'est très différent. Il n'est pas un Dieu, il est Dieu. Il n'est pas à notre image, nous sommes à son image. C'est très différent. Si je pense que Dieu est à mon image, alors je vais commencer à réfléchir à ce que j'aime et ce que je n'aime pas, pour ensuite me faire une représentation de Dieu qui soit à mon image, selon mes standards, mes principes et mes affinités. Mais le problème, c'est que c'est une représentation de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la réalité de qui il est et de comment il se révèle. Nous savons que Dieu n'est pas créé, il ne découle pas d'une cause, il ne découle pas donc de ma pensée. C'est moi qui suis créé par lui. Et il est bien au-dessus de moi en puissance, en majesté et en sagesse. Oui, car il est infiniment puissant, majestueux et sage. Autrement dit, il n'est comparable à aucun autre, il n'a pas d'égal. Il dépasse mon entendement et me surprendra toujours. Voyez comme c'est rassurant que Dieu nous dépasse, que Dieu est au-dessus de nous, puisque dans les moments où je suis dans une relation paisible avec lui, il y a de quoi se réjouir parce que j'apprends toujours plus à le connaître. Autrement dit, je ne m'ennuie jamais avec lui. Et dans les moments de galère, les moments plus ténébreux de ma vie, peut-être là où j'ai honte, où je me sens coupable, eh bien, le fait que Dieu soit infiniment grand me rassure parce que je sais que son bras n'est pas trop faible pour venir me secourir. Il n'est pas trop faible et son cœur n'est pas trop étroit. Non, il veut m'inonder de sa grâce et de son pardon. Voilà l'amour de Dieu pour l'homme. C'est pour toutes ces raisons que j'ai envie d'implorer un tel Dieu, de lui demander sa joie et sa paix en moi. Je n'ai pas peur de lui demander son secours sur mon manque de foi, puisqu'il veut m'aider à compter sur lui. Et il me fait comprendre qu'il marche devant moi, en tout point. Le secours de Dieu est nécessaire, parce que l'opposition est bien réelle. Concernant les puissances démoniaques, l'homme de notre récit les a vues à l'œuvre depuis des années, dans la vie de son fils, qui était tenté de se donner la mort en se jetant dans l'eau ou dans le feu. La vie du père devait être un stress permanent pour éviter à son fils de se donner la mort. De ce fait, il n'avait pas besoin qu'on le convainc de la puissance des démons. Le mal est une réalité pour cet homme. L'anxiété était son quotidien. Concernant les situations de vie chaotique, nous avons tous notre lot de galères. Je ne sais pas quel est le vôtre, mais le père, dans notre récit, avait le sien. J'ai le mien et je ne doute pas que vous ayez aussi le vôtre. La prière de l'homme dans notre récit me donne un bel exemple de foi en Jésus, ce qui implique une déconstruction de tout ce que je pensais être ma force, ou peut-être toutes les choses qui constituaient l'ensemble de mes croyances avant cette rencontre avec Jésus. Des croyances bâties sur du vent, la cupidité, une idée fausse de mes propres forces, une idée fausse de la justice de Dieu. Mais voici ce que le Père va prier. Viens au secours de mon incrédulité. Ça nous perturbe. Il dit juste avant, je crois. C'est paradoxal. On peut penser qu'il se contredit, mais je ne pense pas. Je crois au contraire que cet homme n'a jamais été aussi lucide sur sa propre condition. Il dit la plus profonde vérité ici. Il place sa confiance pour la première fois en Jésus, pour qui il est vraiment, c'est-à-dire Dieu. Le fait de déclarer « je crois » à Jésus, alors oui, nous voyons ici une foi qui sauve, mais cette foi qu'il a en Jésus-Christ, cette foi qui sauve, bouleverse tellement de choses en lui, des choses et des croyances qu'il a emmagasinées pendant toutes ses années de vie, qu'il a tout à réapprendre. Il se positionne comme un enfant nouveau-né qui doit apprendre à nouveau à marcher, à parler. Il en est de même pour le jeune croyant, Celui qui vient de se convertir, c'est-à-dire de croire en Jésus comme fils de Dieu, comme son Seigneur et son Sauveur, de manière tout à fait consciente et personnelle. Ce jeune croyant va forcément apprendre à adopter une nouvelle vision de la vie, dans tous les domaines, une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de l'humanité, une nouvelle vision de sa propre vie, de ses propres défis, une nouvelle vision de l'épreuve, une nouvelle vision de ce qu'est la relation avec Dieu. La foi chrétienne implique un bouleversement si radical comme un aveugle de naissance qui découvre pour la première fois ce qu'est de voir. C'est un nouveau processus d'apprentissage qui s'ouvre à lui. Eh bien, c'est aussi un nouveau processus d'apprentissage qui s'ouvre devant le disciple de Jésus. Le jeune disciple va s'écrier « Viens au secours de mon incrédulité ». Sous-entendu, continue de m'enseigner sur tous les autres sujets. Donne-moi une compréhension nouvelle des priorités dans la vie. Mais surtout, ne m'abandonne pas si vite. J'ai tant à apprendre. Je suis dépendant de toi. Aide-moi. Ce père voulait bien faire en prenant soin de son fils. Et il se retrouve maintenant comme un enfant devant son père céleste qui veut prendre soin de lui. Quel retournement de situation dans notre récit. Et si la priorité est d'abord de croire en Jésus-Christ, qu'est-ce que je mets comme condition à Dieu ou comme ultimatum? Ne suis-je pas moi-même en train de saboter ma propre relation avec Dieu en précisant mes propres conditions plutôt que d'écouter les siennes? Si je suis dans une telle position de négociation avec Dieu, Dieu ne peut pas intervenir dans ma vie. Une telle position est en fait une opposition. Et nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est de reconnaître notre statut de créature face au Créateur. C'est de reconnaître notre besoin d'être secouru par Dieu. C'est de reconnaître que nous n'avons aucun recours pour notre salut et pour nos péchés, si ce n'est celui que Dieu donne, Jésus-Christ, son Fils, mort à la croix, en rançon, pour mes péchés, pour ma vie. Écoutons la conclusion de ce récit, au verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. La suite de l'histoire de cet homme qui a été bouleversé, c'est l'histoire de Jésus qui continue vers un bouleversement pour sa propre vie. Jésus va connaître la mort, le rejet parmi son propre peuple, parmi l'humanité qu'il vient sauver. Mais ce rejet et cette mort est l'épreuve ultime que le Fils de Dieu va connaître pour le salut et le pardon de nos péchés. Qu'attendons-nous cette année de Jésus? Je prie que dans nos épreuves, il soit notre priorité, que nous voyons qu'il a plus à donner qu'une résolution terrestre, mais il veut aussi une résolution céleste, un cœur renouvelé par son Saint-Esprit pour comprendre combien il est bon, combien il est grand et glorieux, ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, mourir pour nous, et qui est aujourd'hui ressuscité d'entre les morts. Jésus a vaincu la mort, et notre péché est pardonné par la croix. Alors je prie vraiment que cette réalité, nous puissions la garder dans notre cœur et la repasser aussi longtemps qu'il y a de jours dans cette année. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen.
Seul tu me fais reposer, non d'aucun bien je ne manquerai. car vers tes eaux je suis dirigé.